Radio Okapi. Okapi. Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous dans votre magazine de la vie au quotidien, au Okapi Service. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous servir. Affaire Baleine de Moanda, est-ce qu'il a fallu l'enterrer ou la garder pour le tourisme ou la recherche? On en parle dans cette émission de la vie au quotidien avec Monsieur Guy Mbaïma, ancien directeur technique et scientifique à l'ICCN, à l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, et directeur à l'Agence Congolaise de l'Environnement. Monsieur Mbaïma, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien.
Merci.
On aura également en ligne Monsieur Dédieu Biaombe Balongeloa, directeur provincial de l'ICCN Congo Central. Il va participer à cette émission pour nous en dire un peu plus par rapport à cette baleine qui a suscité beaucoup d'émotions à Moanda et sur les réseaux sociaux à travers la République et le monde. Dans la deuxième partie de votre émission, nous allons échanger autour des obsèques. L'organisation des Matanga, les obsèques en République démocratique du Congo, c'est devenu un casse-tête pour de nombreuses familles. Lorsque vous perdez un être cher, pour organiser les obsèques, il faut beaucoup dépenser. Ça demande beaucoup d'argent. Pourquoi ? On en parle dans cette émission à partir de 11h05, heure de Kinshasa. Patrick Yassongwa sur la mise en onde. John Chibwabwa coordonne et réalise cette émission. Esther Mamboté assure les lives sur les plateformes digitales de Radio Okapi. Au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Okapi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, channel 951. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Bien, Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir. Bienvenue dans cette émission, mesdames et messieurs, Okapi Service. Nous allons parler de cette affaire qui a suscité beaucoup d'émotions dans la ville côtière de Moanda avec la découverte d'une baleine morte à la côte de l'Atlantique. C'était le jeudi de la semaine dernière. Alors ce monstre marin de près de 12 mètres et pesant plus de 10 tonnes a attiré des centaines de curieux dans les quartiers, les marchés et partout ailleurs sur les réseaux sociaux. Elle était au centre de toutes les conversations. Finalement, elle a été enterrée dans une fosse aménagée par l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature. C'était le samedi 4 juillet dernier, après une courte cérémonie coutumière. Alors, la question que l'on se pose aujourd'hui est de savoir, est-ce qu'il a fallu l'enterrer ou la consommer, il semble que c'est une bonne viande aussi, ou la garder quelque part dans un musée pour le tourisme et la recherche. Alors, qu'est-ce qui peut avoir causé la mort de ce mammifère aquatique? Nous allons en discuter aujourd'hui avec nos invités. Nous avons déjà ici dans ce studio Monsieur Guy Mbaïma, qui est un ancien directeur technique et scientifique à l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature et actuellement directeur à l'Agence Congolaise de l'Environnement. Monsieur Mbaïma, encore une fois bonjour et bienvenue dans cette émission.
Bonjour Kachem.
Alors comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle de cette baleine qui a échoué à la côte de l'Atlantique à Moanda?
Bon, pas avec assez de surprise, c'est normal, non?
Ok.
On vient au monde, on vit et on meurt.
Mm-hmm.
Alors, c'est dans le cycle normal de la vie. Donc, l'échouage d'une baleine sur une plage, ce n'est pas nouveau, ça arrive. On a entouré cette histoire de beaucoup de fanfaronnades inutiles. Mm-hmm. Ce n'est pas la première fois, ça ne sera pas la dernière fois non plus.
C'est pas la première fois en RDC?
Ça, je ne sais pas, mais à travers le monde, c'est pas la première fois. En RDC, je ne saurais pas vous répondre, mais pour moi, ça rentre dans le cycle normal de la vie. Hein.
Oui.
Ouais. Et une baleine vient au monde, elle fait sa petite aventure, elle vit, et puis bon, elle disparaît. C'est tout. C'est normal, non?
Voilà, mais ça suscite tant de questionnements, d'où elle vient d'où, pourquoi elle est morte, tout ça, comment elle s'est retrouvée là-bas. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout cela?
Non, Kachama, c'est simple. Une baleine vit dans l'eau, dans l'océan. C'est son milieu naturel. S'il quitte son milieu naturel, il faut interroger sa biologie. Pourquoi elle a quitté son milieu naturel et pourquoi elle se retrouve là-bas? Vous aviez dit plus de 12 tonnes. Et vous croyez que c'est l'eau qui l'a amenée là-bas? Non.
Non.
Et elle a quitté son milieu naturel d'elle-même pour aller échouer au niveau de la plage. Et donc, c'est normal, non? Simplement, il faut se poser la question... Pourquoi elle a quitté son milieu naturel?
C'est ça la grande question. Oui, pourquoi? Quelles peuvent être les vraies raisons?
Oh, il y a beaucoup d'hypothèses qu'on peut formuler. D'abord, la première des choses, est-ce une baleine mâle ou femelle? On devrait se poser cette question parce qu'elle est importante. Si la deuxième question, est-ce que c'était une vieille baleine ou pas? À partir de ces deux petites questions élémentaires au demeurant, on peut essayer de supputer sur la raison qui a fait que la baleine se retrouve là-bas. Si c'est une baleine mâle, et puis vieille, ça signifie tout simplement, ça peut signifier tout simplement que, ayant régné pendant des années comme mâle dominant, c'est elle, cette baleine mâle-là, qui avait accès aux femelles. Et les jeunes étaient en train de l'observer pour dire, attendez, les jours où vous allez vieillir, nous allons vous chasser. Et ça sera notre tour d'avoir accès aux femelles. Alors, si tel est le cas, c'est que un jeune turc a essayé et il a trouvé que le vieux était déjà vieux.
Oui.
Et il lui a demandé sagement de quitter le domaine vital. Et si le vieux a eu le toupet de résister, alors le jeune l'a battu à mort. Et donc, à ce moment-là, blessé, affaibli, il ne pouvait plus continuer à vivre dans l'eau. Les pressions physico-chimiques de l'eau, il ne pouvait plus tenir. Oui, et bon, c'est comme ça qu'il a quitté l'eau. Il doit probablement avoir saigné, si tel est le cas.
Généralement, ces animaux se battent...
Pour les femmes, tout le monde se bat. C'est ça la loi de la nature.
Ça peut être ça.
Ça peut être ça. Ça, c'est une hypothèse plausible.
Oui.
Bon, et puis, la nature fait bien les choses. Quand tu es jeune, ton pouvoir fécondat est élevé. Mais tu prends de l'âge et ce pouvoir-là diminue. Et si tu persistes à caporaliser toutes les femmes, tu freines la reproduction. C'est comme ça que la nature a fait en sorte que, à cet âge-là, un jeune te renverse. lui qui a encore un grand pouvoir fécondant, et ait accès aux femelles pour que la reproduction ne soit pas bloquée et que la vie continue. Bon, maintenant...
Mais je suppose qu'il y a plusieurs femelles, il y a plusieurs mâles, alors pourquoi? Ah
bon, écoutez, les hommes croient que toutes les femmes sont faites pour eux. Un seul homme peut en avoir combien, d'après toi? Même dans cette ville-ci. Hein? Dans le domaine animal, c'est la même chose.
C'est la même chose.
On ne partage pas les femmes, malheureusement. Les mâles sont comme ça.
On l'a retrouvé avec des blessures, il y avait
j'y arrive,
des traces.
J'y arrive, j'y arrive. Alors... S'il n'a pas résisté au gène, bon, il allait quitter le domaine vital et commencer à se réfugier quelque part, prendre sa retraite sexuelle tranquillement. Mais si, comme je l'ai dit, là il est toupé de vouloir résister à un gène turc, hein. Il y a un musicien ici qui dit « Oyasim Baramandou qui batunaka mboulana ete » Celui qui est fort, il ne faut pas essayer de le résister.
Donc, ça, c'est une bon, hypothèse. Donc, soit ça, il a été. Voilà,
oui, bon, donc,
s'il est retrouvé avec une blessure.
Et il ne pouvait pas tenir dans l'eau, il est sorti. Ou les baleines.
Mais il semble que la baleine a des poumons. Elle ne reste pas trop longtemps sous l'eau et doit sortir de temps en temps pour respirer. Et puis.
Et puis quoi?
Et puis, il rentre dans l'eau.
Et c'est comme ça sa vie. Oui. Mais alors, si ce n'est pas ça le cas, il arrive aux baleines de croire qu'elles sont fortes plus que les navires, hein, les paquebots, et c'est déchargé des navires, ça arrive. Je ne sais pas si dans leur domaine, là, ils filment aussi les chanvres. Ça peut lui arriver, bon.
D'avoir été blessé par un navire?
Oui, 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 des palettes de moteur, parce qu'il veut charger... Il charge du côté où il y a des palettes et bon, il est blessé. Il paraîtrait que cette baleine-là avait des blessures. Il paraîtrait. Voilà. Donc, il se retrouve là, soit parce que chassé par un jeune turc, et soit est blessé.
Blessé par...
Après s'être entêté, et le jeune turc l'a bien torturé.
D'accord.
Ou bien, c'est la palette, ce sont les palettes du navire qui
l'ont blessé.
Qui l'ont blessé.
Alors, comment déterminer l'âge? Comment savoir que c'était un jeune... c'était encore une jeune baleine ou...
il faut faire des mesurations. Il faut mesurer.
Il faut mesurer.
Oui, il faut mesurer.
Déjà, à partir de 12 mètres et pesant 10 tonnes, c'est beaucoup, c'est énorme.
Bon, c'est énorme pour vous, hein. Mais ça peut ne pas être énorme pour si on a des mensurations des baleines adultes. C'est question d'avoir des repères. Hein. Et je pense que la littérature peut nous renseigner là-dessus. C'est pourquoi il aurait fallu faire un certain nombre, pas d'examens, de pratiques, de techniques, pour répondre à toutes ces questions-là. Et j'ai l'impression que...
Et une baleine adulte peut atteindre quelle dimension ou proportion?
Là, tu parles de 12 mètres. Ça peut aller au-delà. Hein. Peut arriver à 20. Hein.
À 20 mètres?
Oui, peut arriver à 20. Et plus de tonnes que 12 tonnes.
Mais c'est impressionnant.
Ah, mais oui, oui. C'est un animal qui a l'aspect d'un monstre. Et là, il faut interroger
la
littérature.
Tout à fait. Alors, M. Mbaïma, la grande question aujourd'hui est de savoir, est-ce qu'il a fallu l'enterrer ou garder cette baleine pour besoin de tourisme et de recherches scientifiques?
Ah, Kachama, mon frère. Vous savez, je suis malade quand je vois des choses comme ça.
Pourquoi?
Ce qui s'est passé à Mwandala, c'est un amateurisme parfait. Les gens n'auraient pas dû se comporter comme ça.
On a amené une grue pour la soulever. Mais, peut-être qu'on l'a encore blessé davantage.
D'abord, vous savez que le monde entier se moque de nous. Il dit, voilà, en RDC, ils ont trouvé une nouvelle thérapie pour guérir les baleines qui échouent en amenant des grues, des bulldozers, tout ça. Comment on peut faire des choses comme ça? Comment? Dans ces pays, il y a des enfants de ces pays. il y a des personnes qui connaissent. Et bon, l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Ces parcs-là existent. Voici bientôt cette aire protégée là. 34 ans.
Un instant, on va accueillir Monsieur Dedieu Biaoumbe Balongeloa, directeur provincial de l'ICCN Congo Central. Monsieur Biaoumbe, bonjour.
Bonjour. Bonjour tout le monde.
Bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous parlons de cette affaire de la baleine de Moanda, qui a été enterrée le samedi 4 juillet dernier, qui avait échoué depuis le jeudi de la semaine dernière à la côte, à la plage de l'Atlantique à Moanda. Alors, comment tout cela est arrivé et d'après vous, qu'est-ce qui pourrait être à la base de cette apparition de cette baleine blessée et qui est décédée après?
Oui, merci beaucoup. Bonjour Kachamanko et bonjour Directeur Mbaïma que je connais bien. Et bonjour à tous les auditeurs. Je voulais d'abord commencer par corriger que ce n'était pas le samedi qu'on a enterré. On a enterré le dimanche vers 4h.
Ok.
Donc c'était le matin du dimanche.
Oui.
Et il est vrai que nous avons tous vécu cette apparition sur la côte atlantique. De la baleine qui est arrivée et qui a été vue par les communautés et presque 10 minutes après on était informé, on est arrivé sur place. Ça a étonné les gens puisque de toute l'histoire, il paraît que c'est la première fois sur la côte atlantique congolaise de voir une baleine, la présence d'une baleine. Mmh. Les études montrent que dans les eaux atlantiques de la côte congolaise, il y a la présence des baleines, il y a des dauphins et des requins. Mais on n'avait pas encore vraiment palpé des doigts de cette présence. Pour nous, c'est une augmentation sur la base des données congolaises qu'il y a réellement des baleines à cet endroit qui viennent se nourrir mais qui ne se reproduisent pas au Congo. Alors, nous avons vécu cet événement et moi je suis d'accord avec beaucoup de choses que le directeur est venu de dire, puis je suis en train de suivre depuis le début. Mmh. Mais il y a de, peut-être d'enrichissement de tout ce qu'il venait de dire. Moi, quand je parle, je vois la situation, quand je suis arrivé sur le lieu, je me dis que ce n'est pas un cas de chouage. Et là, je vais essayer de l'expliquer ici.
Oui.
Ce n'est pas un cas de chouage, puisque cette baleine est arrivée vraiment fatigué. Et les premiers signes d'échouage, on devait trouver qu'elle était en train de se battre pour rentrer. Elle était en train de se forcer pour sortir de la petite prison qu'elle a créée elle-même, puisqu'elle a été jetée sur le sable, sur la plage. On a trouvé qu'il y avait maintenant des sables qui l'embourbaient. Mmh. Et là, c'était pendant la haute mer. Mais l'individu ne faisait presque rien pour se débattre. Alors, on a compris qu'il y a déjà un problème. Il y a un problème, je peux citer son nom, le docteur Mavwemba qui m'avait même dit déjà quelques minutes après, il dit non, je pense que cette baleine ne va pas s'en sortir, elle est morte. Il dit non, elle bouge encore un peu, non, c'est l'autonomie des membres qui permet qu'elle puisse bouger, mais elle n'est plus en vie, puisqu'il a aussi un peu de spécialité dans la recherche sur les poissons et autres. Mmh. Alors, là, ça court. Mais s'il faut voir les causes, nous avons mis notre accent pour voir le pourquoi de l'arrivée sur notre côte atlantique. Nous avons vérifié tous les corps, il n'y avait pas de plaies. Et si les photos, vous voyez quelques plaies, c'est ce que les efforts des gens ont essayé de faire. Mais en réalité, quand la baleine est arrivée, il n'y avait même pas de plaies, il n'y avait pas de traces. On a pensé que ça avait un problème de braconnage, personne n'a tiré. On a pensé que ça peut être un problème de ce que l'ancien DTS, avec beaucoup de respect, venait de dire, le problème des machines peut être un grand navire, bateau,
oui.
Mais on n'a pas trouvé. Si c'était le moteur des bateaux, ça allait laisser des traces, des blessures. On a pensé que ça peut être même la chasse des requins, puisque les requins chassent aussi les baleines. On a trouvé qu'il n'y avait pas de traces de chasse ou de blessures d'ici des requins, ou même des blessures des autres Turcs qui ont voulu pousser. La baleine en question n'était pas vieille, c'était un mâle, mais qui n'était pas vieille, c'était encore jeune, et il n'y avait pas de traces des autres jeunes qui voulaient peut-être les chasser, et c'est là ce qui nous a poussé aussi à émettre d'autres hypothèses. Nous avons pensé que ça doit être vraiment un problème de changement climatique. Aujourd'hui, les eaux atlantiques sont trop chaudes, et ça peut affaiblir les baleines, le poisson qui est habitué à une grande fraîcheur ou en dessous des eaux, qui peut être affaibli, être rejeté sur la côte. Il y a une autre hypothèse de la maladie, comme l'a dit le directeur. Nous-mêmes, les humains, nous naissons, nous vivons, nous grandissons, mais il arrive des moments où nous tombons malades. Et quand on est malade, moi je me rappelle, quand on était au Cause-Biègue avec les gorilles de montagne, il y a des lianes, il y a des feuilles qui mangent quand ils ont des problèmes de maladies. Est-ce que chez les baleines aussi ça s'est fait, je ne sais pas, mais ça peut être un problème de maladie qui la pousse jusqu'à la côte et ne sait pas se défendre, et la haute mer l'emporte jusqu'à la côte puisqu'elle n'était plus capable de se défendre.
Oui, et alors, si monsieur Biaombe, la présence de cette baleine est-elle une première en RDC ou il y a déjà eu des cas similaires?
Non, c'est une première. Voilà. On a essayé de trouver l'histoire, c'est une première qui vient vraiment arriver jusqu'à la côte comme ça et qui a été documentée, une première.
Et pourquoi n'avons-nous pas pu sauver cette baleine? Est-ce qu'on n'a pas suffisamment de vétérinaires, des spécialistes qui pouvaient la prendre en charge?
En tout cas, il était difficile de la sauver. Même si on la remettait, elle n'allait pas partir, puisqu'elle était dans un état. Moi, j'ai parlé même de coma, puisqu'à un certain moment, en tout cas, elle ne bougeait même plus. Et ça a créé un peu de polémique. On disait non, elle est en vie, et non, elle est morte, elle est en vie, elle est morte. Après, j'ai compris que c'est vraiment un problème d'autonomie des membres qui nous poussait à croire qu'elle était en vie alors qu'elle était déjà morte.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Nous parlons de cette affaire de la baleine de Moanda. Est-ce qu'il a fallu l'enterrer ou la garder pour le tourisme et la recherche? Blaise Saïdi, vous êtes à Kisangani, bonjour.
Bonjour cher Jody, bonjour à l'invité ainsi qu'auditrice de la Radio Capi. Cher Jody,
oui.
Je félicite d'abord la population de Moanda puisqu'ils n'ont pas fait le contraire à ce que le gouvernement avait tellement besoin, puisque si la population n'était pas bien instruite, la population allait chercher à manger cette baleine qui était déjà morte. Mais je dois d'abord demander vite aux invités, ou à l'invité, pardon, l'existence de cette baleine. La baleine, là, avait fait combien de temps? Puisque je pense bien que non, l'invité est tellement spécialiste pour ce cas-là. Donc, je dois aller tout juste à quelques préoccupations, cher Jody. La première préoccupation, elle est déjà précédée par l'invité concernant la cause du décès de cette baleine. Voilà, la question est celle-ci. Quelles mesures concrètes les autorités compétentes, les autorités congolaises comptent-elles mettre en place pour renforcer la protection de la faune marine et sensibiliser davantage la population à la préservation de la biodiversité? C'est ça la première question. La deuxième question, la découverte de cette baleine pourrait-elle servir de point de départ à la création d'un musée d'histoire naturelle ou d'un centre de recherche marine? Et je vais citer ici, la RDC dispose-t-elle d'une politique de conservation et de valorisation des espèces marines échouée à des faits scientifiques, éducatives et touristiques? Voici les trois petites questions, cher Jody, que l'invité peut quand même nous donner un peu de lumière.
Merci beaucoup, Blaise Atoubou. Jean-Arthur Kabamba, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour aussi à l'invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cette affaire de la baleine, là?
Nous tous nous sommes inquiets de voir comment une baleine a échoué et puis on l'a pris directement pour aller l'enterrer. Or, il y a d'autres vidéos, on regarde dans des vidéos, les habitants de Moanda disent que on l'a tiré à partir de l'Angola. Est-ce que c'est vrai? Le directeur peut nous répondre si c'était vrai, on l'avait tiré à partir de l'Angola, ou il était malade, puisqu'il y avait des trous qui perforent son corps. On a regardé même ça dans des vidéos. Est-ce que réellement il était malade? Pourquoi pas ne pas faire un musée pour ces baleines-là, puisque nous commençons à voir aussi même des vidéos, il y a d'autres personnes qui prennent des photos sur la côte de Moanda, il y a une baleine qu'on a exposée, les gens partent là-bas pour prendre des photos. pourquoi pas faire encore de telles choses, les mettre là où tout le monde peut venir voir. Alors je sais que le directeur peut nous répondre et puis nous éclaircir, puisque c'était une occasion pour nous. Dans d'autres chiens, on voit si la baleine échoue, on verse sur lui de l'eau. Toute la population verse toujours de l'eau sur la baleine jusqu'à ce que la baleine aura la force de retourner, de rentrer encore dans l'eau. Et puis, il y a des gens qui viennent, les médecins, les personnes qui peuvent traiter la baleine. Alors, tout ça, pourquoi on n'a pas fait ça? On a laissé seulement les habitants observer et puis avec des engins de 6 tonnes pour venir chercher à les faire remettre dans l'eau. Mais c'était vraiment l'immaturité. Même le monde entier, vraiment, on parle de nous partout. C'est l'immaturité.
Merci beaucoup,
monsieur Jean.
Merci, Jean-Arthur. Monsieur Mbaïma, à vous la parole.
Bon, attends, Je voudrais d'abord pas recadrer, hein, je voudrais fixer l'opinion. Je n'ai pas été catégorique, j'ai mis les hypothèses. Et je n'avais pas encore terminé à émettre les hypothèses. Il y a les cas de maladie aussi. C'est comme ça que je disais, si sur cette baleine-là, il n'y a pas de plaie, il n'y a rien. Donc, l'hypothèse est que l'animal peut avoir été malade. Il y a des zoonoses hein, qui existent, des maladies transmissibles de l'animal à l'homme et de l'homme à l'animal, ça existe. Il y a la brucellose par exemple, les rougets, ça peut tuer l'animal. Donc, a-t-elle été malade? Possible.
Jean-Arthur nous dit qu'il a vu des vidéos, il semble qu'on l'aurait tiré depuis l'Angola.
Bon, ça moi, qu'on me montre ces photos-là, on va voir, hein. Parce que comment lui, il a vu les vidéos et il a conclu que c'était une balle. De quel millimètre, tirée par quelle arme? Il faut être un peu réservé quand on dit des choses comme ça. Mm. Ok? Et bon, qui lui dit que la baleine venait de l'Angola? Qui? La baleine lui a dit ça quand? Ou lui, il a suivi l'itinéraire de la baleine? Il y a des affirmations, il faut se priver de le faire. Ok, donc si nous retenons que la baleine était malade, donc un cas pathologique, c'est possible. Ça, ça ne sera pas une première dans la vie de baleine. Mmh. Il y a toute une série de pathologies bactériennes, virales et parasitaires dont peut souffrir une baleine.
Voilà, Blaise Saïdi de Kisangani dit, est-ce que ça peut être l'occasion de renforcer la faune marine? Et puis, est-ce que ça peut être un point de départ des recherches par rapport à...
Mais si c'est un point de départ, c'est malheureux parce que le parc marais de mangrove existe depuis 1992. Donc ça fait 34 ans. Et l'ICCN, c'est un établissement public à caractère technique et scientifique. Donc ça ne peut pas être une occasion pour faire des recherches. On devrait déjà avoir fait des recherches continues. Donc depuis qu'on a créé cette aire protégée, si on n'a jamais fait de recherches, c'est de l'amateurisme.
Mmh. Okay? Bien, monsieur Biaombe, qu'est-ce que vous pouvez dire aux deux intervenants de tout à l'heure?
Oui, merci beaucoup. Je peux dire que pour l'ami qui parle des balles, non, cette hypothèse est à rejeter puisque nous avons vérifié, il n'y a pas eu de balles. Les trous qu'ils ont vus, ce sont des cétacés qui vivent dans l'eau et qui sont souvent attachés par les coquillages et autres. Alors, nous avons trouvé des parasites qui s'attachent à la peau et qui créent des trous, mais ce ne sont pas des trous qui ont une grande profondeur. Mm. Comme venait de le dire le directeur Mbaïma, dès qu'il y a une balle qui entre, d'ailleurs là où la balle entre, ça se ferme. Souvent c'est un petit trou qui ne peut pas être trop visible, mais qui fait couler le sang, et c'est là où la balle sort, où ça s'agrandit. Nous avons vérifié tout ça, on était même avec un auditeur militaire pour essayer de vérifier s'il n'y avait pas eu un cas de braconnage comme ça, on n'a pas trouvé. Donc cette hypothèse est vraiment élaguée. Mm. Nous pensons, c'est ce qui nous a poussé même de refuser qu'il y ait des gens ne puissent pas manger, puisque on n'a pas connu, on n'a pas été au courant, on n'a pas su si ça peut être quelle pathologie qui était à la base de cette mortalité. Alors, s'il faut répondre encore à la question de mettre dans les musées, nous avons essayé de contacter tous les grands scientifiques du monde sur la manière dont on peut garder cette espèce pour l'amener dans un musée. C'est une espèce qui a beaucoup de chair, de graisse, et c'est difficile de les momifier. Alors, la vision est que nous l'avons enterré quelque part où on peut, avec le temps, déterrer des squelettes qu'on va les mettre dans les musées, et là nous répondons à la volonté non seulement du gouvernement mais de tous les Congolais et de tous ceux qui veulent voir au moins une image ou quelque chose de symbolique sur la baleine ou immortaliser cette présence de cette baleine. Ça va se faire avec le temps, mais on le fait avec ce que nous avons comme moyen. Il est vrai qu'il y a eu quelques ratés, nous acceptons qu'il y a eu des ratés comme on vient de le dire tous. Mais c'est un problème de prise de conscience. C'est maintenant, peut-être ou jamais, puisqu'on ne dira pas qu'on ne savait pas, mais maintenant qu'on connaît, il n'est pas tard qu'on prenne les choses à main et qu'on mette tout en place pour que si un cas pareil arrivait encore, que ce soit sur les baleines, que ce soit sur les tortues luttes, qui sont des grandes tortues et autres mammifères, on peut toujours savoir intervenir et être professionnel.
Alors, monsieur Biaombe, est-ce qu'il y a déjà des recherches? Est-ce que les chercheurs sont déçus pour étudier, connaître les causes réelles du décès de ce cétacé?
Oui, on a eu quelques deux médecins vétérinaires qui travaillent au ministère de la Pêche et qui étaient là et avec qui on est en train d'étudier comment faire des analyses. Je pense qu'on saura la cause.
Elvis Londola nous appelle de Kinshasa et Trésor Macha de Bounia. Elvis Londola, bonjour.
Bonjour, je dis bonjour aussi à nos invités qui sont là. Je voulais d'abord dire ceci. Vraiment, c'était peut-être un spectacle. Et peut-être c'est aussi une chose qui nous est arrivée. Peut-être depuis que nous sommes nés, on n'a pas encore vu. Peut-être c'était aussi une occasion aussi, mais le dernier invité vient de dire qu'on ne pouvait pas parce que nous avons cette idée. Il a assez de grâce pour le concevoir, ça devait être un peu trop difficile. Mais à ça que j'ai déploré un peu quoi, sur la position où il était. Parce que nous savons que lorsqu'il était, peut-être il a été apporté par la vague de la mer. Et comme le premier invité dit, peut-être il peut être fatigué, il peut aussi se retrouver qu'il était dans l'impossibilité de pouvoir continuer à nager parce que les vagues sont aussi puissantes. Alors, qu'est-ce que nous déplorons? Parce que peut-être personnellement, par exemple moi, qu'est-ce que je déplore peut-être? Nous avons un ministère chargé de pêche et élevage. Cette histoire, ces baleines a duré peut-être 3 jours à l'extérieur. Peut-être même le premier jour, on pouvait déjà déployer directement ici de Kinshasa directement. On pouvait venir en aide. Nous avons des vidéos, nous voyons comment, je ne dis pas que parce que dans d'autres siens, mais nous voyons comment d'autres personnes se disponibilisent dès qu'il y a une chose pareille. Presque, on ne peut pas dire qu'il faut que toutes les institutions puissent se rendre là-bas. Nous avons vu les ministres du transport arriver là-bas peut-être pour aller voir. Mais on pouvait dire le premier ou le deuxième jour, peut-être le premier jour, même la nuit, on devait... Parce qu'on a vu, j'ai aussi vu des vidéos qui ont circulé avec certains journalistes qui ont diffusé des informations, non, qu'il était en vue, mais après 2 jours. Et après ça, même si, même le jour, même là, lorsque les traiteurs sont arrivés pour chercher à faire un effort, Des fois, on le voyait de loin, même dans l'image, mais on voyait que même il était encore vivant. Peut-être, même quand on a voulu les faire retourner, ça signifie que les gens qui sont venus pour les faire retourner, on l'a retrouvé qu'il était encore vivant. Alors, le fait seulement de négliger peut-être, parce que c'est rare de fois de voir une telle chose, apparaître, et puis on n'arrive pas à le soulever. Et comme moi aussi j'ai fait aussi des études de là-bas, ces histoires ne se retrouvent pas au Congo peut-être. Ils arrivent, ils peuvent arriver aussi, ils peuvent arriver à manger, et après ils doivent rentrer. Mais c'est aussi l'occasion peut-être quand il va trouver un terrain favorable. Il pourrait même se marrer, c'est là, et on s'appelle, nous pouvons encore bénéficier. Mais ce que je déploie vraiment, tous ces temps, presque 2 ou 3 jours, il était à l'extérieur. Le premier jour, même la nuit, on pouvait apporter une aide qui correspondait.
Merci. Donc, d'après vous, l'aide est arrivée tardivement.
Monsieur Oui, parce que quand les tracteurs sont arrivés, signifie qu'il était vivant, parce que les tracteurs voulaient le faire retourner.
Merci.
Il était vivant.
Merci. Trésor Macha, vous êtes à Bounia, bonjour.
Bonjour.
Bien, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cette baleine? Allô, Trésor Macha? Merci d'ouvrir votre micro, Trésor Macha. On ne vous entend pas.
Allô, bonjour.
Bonjour, Monsieur Macha. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Ah oui, effectivement, j'avais voulu participer par rapport à ce sujet. Mes questions, presque la première, a été déjà balayée par les prédécesseurs. Mais moi, j'ai une question à l'invité et aussi aux spécialistes. Hein.
Oui.
Et pourquoi les autorités locales, et mais aussi les services, les spécialistes de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ont fait appel aux coutumes pour inhumer cette baleine. Aussi longtemps que nous avons aussi des pasteurs et mais aussi des prêtres et les hommes dédiés dans cette province pour inhumer cette baleine. C'est ça ma petite préoccupation. Merci beaucoup et bonjour à tout le monde.
Bien, merci beaucoup. Monsieur Mbaïma, à vous la parole.
Bon, je suis simplement un peu étonné.
Pourquoi?
Les gens devraient s'informer sur la façon de faire les choses. On a pris beaucoup de risques hein, avec cette baleine. Quand une baleine échoue, ce n'est pas Fali Poupa qui joue, tout le monde va venir. Normalement, c'est interdit d'approcher la baleine qui échoue comme ça. Parce que si c'est une zoonose grave, hein, mais vous vous faites contaminer bénévolement comme ça. Et la suite, c'est une épidémie qui s'installe, et vous connaissez le reste, hein, ça peut être plus fort qu'Ebola. Donc,
on a vu les gens qui allaient la toucher, non, faire des selfies, c'était...
Mon frère, moi j'ai eu des larmes aux yeux, parce que là, on a des protocoles. Quand une baleine échoue, voilà ce qu'on doit faire, voilà ce qu'on ne doit pas faire. Ça existe. Et dire que aucune règle contenue dans ce protocole-là n'a été observée, ah, Dieu merci, peut-être que la maladie, si c'est une maladie ou une pathologie qui a tué cette baleine, n'est pas une zoonose. Parce que autrement, les jours qui vont suivre, ce n'est pas exclu qu'on commence à voir les gens mourir comme des petits poussins. Et je l'ai dit parce que c'était de l'amateurisme. J'ouvre une...
Donc il ne fallait pas autoriser à la population d'approcher...
Pas du tout alors. Ça c'est la première règle. Mm-hmm. Pas du tout. Tout le monde out of the side. Dehors. Tout le monde. Celui qui a vu signale la position. Ça c'est une bonne chose. On a vu, on signale. Et deuxièmement, on n'approche pas la population au-delà. Troisièmement, les gens qui approchent, ce sont les autorités habilitées à le faire. Ici, je vois les directeurs, je vois les confrères, collègues qui peuvent venir. Mais ils ne viennent pas là en train de danser. Ils viennent avec ce qu'on appelle l'équipement de protection individuelle.
Donc on ne pouvait pas la toucher, l'approcher sans équipement.
Tout ce qu'on a fait là, c'est de l'amateurisme. Gants, protection des narines, des yeux. Ils allaient même s'habiller comme les astronautes, n'est-ce pas? Ok? Pourquoi? Quand une baleine meurt comme ça, elle peut exploser.
Ah bon?
Ah oui.
Pourquoi?
Mais il y a des réactions qui se passe dans son corps, qui commence à se décomposer. Et si vous arrivez au moment où il y a beaucoup de gaz qui se sont accumulés, il y a une explosion. Vous avez le gaz, l'ammoniac, que ça peut dégager. Vous avez le sulfure d'hydrogène, que ça peut dégager. Il y a le gaz méthane.
Oui, mais monsieur Mbaïma, certains disent que la viande de baleine, c'est une très, très bonne viande. On aurait dû laisser les gens, chacun couper son morceau.
Oui, entre-temps, eux-mêmes disent qu'ils n'ont jamais vu ça. Alors, ils ont mangé ça quand? Ici, on dit, tout le monde dit que c'est la première
fois. C'est la première fois.
Oui, alors, ils ont mangé ça quand? Vous voyez comment les gens peuvent mentir comme ça. Ah bon? Non. Moi, je pense que
oui.
Le directeur Biaombe a bien fait les choses, au moins... pour interdire aux gens de ne pas manger. Ah, mais vous savez, Ebola, c'est comme ça. Hein? Les animaux sauvages ont ces virus-là sur eux. Et quand ces animaux ne sont pas encore stressés, ces virus ne les tuent pas.
D'accord. Monsieur Biaoumbe, à vous la parole.
Oui, merci beaucoup. Je vais directement aller sur l'idée des coutumiers et non des pasteurs.
Oui.
Oui, ça c'est une croyance. N'oubliez pas que nous sommes des Bantous. Et étant Bantou, la première croyance est que tout ce qui vient des eaux, il faut des cérémonies rituelles pour que ça réussisse. Même la terre, là où nous sommes allés enterrer, ce n'était pas la terre qui appartient vraiment au pasteur, mais ce sont ces coutumiers qui disent, c'est notre terre, nous voulons faire nos prières pour que l'Ima, comme il est même appelé, ne puisse pas avoir des conséquences sur la vie de la population et autres. Mais cela n'empêche, il y a des pasteurs qui ont prié, peut-être on n'a pas montré ça ouvertement, puisque notre crainte, comme vient de dire le directeur de Tembaïm, on se disait, s'il y a des répercussions, ça peut vraiment créer des catastrophes au niveau des Mwanda, il fallait vraiment prier pour que toutes ces maladies, les zoonoses et surtout, ça ne soit pas une réalité qui peut retourner contre la population.
Donc, certains pensent que ça peut être spirituel, il y a une dimension spirituelle avec l'apparition de cette baleine.
Et il y a même des vidéos, vous avez déjà suivi avec moi, qui parlent de beaucoup de spiritualité. Il y a même des pasteurs qui ont montré que l'apparition de cette baleine, c'est une malédiction, ça va amener beaucoup de choses, ça va amener des bénédictions pour les autres. Alors, c'est pour dire qu'il y a eu beaucoup d'argumentaires, il y a eu beaucoup de révélations, et nous avons pensé que ça va... C'est aussi intéressant que les coutumiers aussi fassent leur part pour que nous soyons complets.
Ça s'est passé près du village Makassamba, c'est ça?
C'est là où nous sommes allés enterrer, et il fallait aussi échanger avec les villageois, il fallait leur consentement, puisqu'on ne pouvait pas s'imposer, il fallait leur expliquer ce qui se passe, et c'est tout ce que nous avons eu à faire avec eux, et à leur tour, ils ont demandé qu'ils fassent une petite cérémonie pour accueillir la dépouille et la mettre dans leur sous leur terre.
Et puis, il y a quelqu'un qui a dit l'intervention est arrivée tardivement. On aurait pu sauver cette baleine qui était encore en vie si il y a eu une prise en charge rapide d'après Elvis Londo là, qui nous a appelé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Oui, Elvis a dit ce qu'il a dit ailleurs. Je peux vous dire que les vidéos peut-être prenaient les mauvais côtés et ne pas prendre les bons côtés. Les agents étaient là qui déversaient de l'eau, malheureusement avec des seaux bien sûr, puisqu'on n'avait pas de tanks. Mais ils déversaient de l'eau avec des seaux. Presque toute la journée du premier jour, le deuxième jour, donc l'eau était là. On a essayé de faire ce qui était possible. Et ce qu'on ne pouvait pas faire, bien sûr, on n'allait pas créer une roue. On n'allait pas faire ce qui n'était pas possible. Mais nous avons fait tout ce que nous pouvions. Et je vous rassure que si on remettait cette baleine dans l'eau, elle n'allait pas marcher, elle n'allait pas s'en sortir. Et là, je suis prêt à mettre ma main à couper.
Et qu'est-ce qui nous rassure pas qu'il y aura des gens qui pourront passer près du village Makassamba là-bas pour couper soit un morceau, soit voilà, qui peuvent accéder et puis se servir?
Bien sûr. Nous avons depuis la côte océanique faire de la surveillance. Moi, j'ai des éléments et j'ai été renforcé. Là, je remercie même la base de Kitona et la base navale de Banana qui m'ont renforcé pour sécuriser le lieu et le mammifère. Nous avons fait la même chose même à Makassamba, le jour où on l'a enterré. Les éléments sont restés là-bas pendant ces deux jours. Moi-même, j'étais là, je peux vous dire que j'ai presque cinq jours sans dormir, puisqu'il fallait veiller pour que ça se passe. Lors de l'enterrement, ça donnait déjà de l'odeur où personne ne pouvait plus passer pour prendre un morceau, puisque ça commençait déjà la décomposition.
Maintenant, là où on a enterré cette baleine avec la décomposition, est-ce que ça ne va pas polluer l'environnement immédiat?
On a fait toutes les mesures de sécurité. Et là, à partir de ce soir-là, il y a des interventions du ministère de la Pêche qui étaient arrivées et ils ont amené quelques produits que nous avons utilisés pour que les produits au niveau local aussi que nous avons utilisé pour que tout cela n'arrive pas. Donc c'est vraiment sécurisé, rien ne pourra inquiéter ni la population ni qui que ce soit.
Monsieur Mbayima, à vous la parole.
Je vais revenir sur l'aspect amateuriste. Vraiment, je suis choqué. Je vois mon jeune frère, il a fait ce qu'il pouvait faire, mais ce n'est pas ce qu'on devrait faire. Bon, si la baleine est morte d'une maladie et que la bactérie est tellurique qui vit dans la terre, qu'est-ce que vous faites? Vous remettez la bactérie là-bas, elle sera là-bas. Et quand elle va ressurgir, c'est une hécatombe. Et c'est lui qui a dit que l'aide est venue en retard. Je pense qu'il n'a pas tort. Le directeur provincial Biaombe, je dois le remercier pour des dispositions qu'il a prises. Mais ce n'est pas comme ça qu'on doit gérer une aire protégée. Nous avons des lois dans ces pays. Il y a la loi 11 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement qui édicte qu'une aire protégée doit faire l'objet d'une étude d'impact environnemental et social assortie d'un plan de gestion environnementale et sociale. La loi 14 qui régit la conservation, à son article 33 et 34, dit la même chose.
Un instant, on va accueillir Mme Claudia depuis Colosie. Mme Claudia, bonjour.
Bonjour, M. Jody. Merci pour la parole m'accorder. En fait, je voulais juste savoir si on a mené des recherches quant à la cause de la mort de la baleine et aussi s'agissant de la préoccupation que vous avez posée sur la page Facebook. Vous avez demandé s'il fallait la conserver pour des recherches scientifiques. Et moi, je me demande, on allait la conserver où et dans quelles conditions, avec ses 10 tonnes et ses 12 mètres. Parce que s'il n'y a même pas assez de chambres froides pour les humains, mais on allait la conserver où? C'est un peu sa préoccupation, merci.
D'accord. Monsieur Mbayima.
Oui, j'ai continué. Et donc, si ces études-là étaient faites, ces études sont assorties d'un plan de gestion environnementale et sociale qui n'est ni moins ni plus qu'un cahier des charges où on répertorie tous les scénarios qui peuvent arriver et ce qu'on doit faire. Et donc, s'ils avaient ces documents-là, ils n'allaient pas tâtonner. Mais c'est parce qu'il n'y a pas ces documents. La loi oblige, ces études sont préalables.
Alors, quelqu'un a dit, est-ce que ça peut être un point de départ pour des recherches, des études non,
ça ne peut même
dans
pas,
les domaines...
Ça ne devrait même pas être un point de départ. Dès qu'on a créé ce parc-là, c'était pour qu'on conduise des études de biologie marine.
Est-ce qu'il y a des moyens? C'est le problème, est-ce qu'il y a,
bon, alors, vous posez
y a des moyens pour ça?
Vous posez la question, vous créez les aires protégées, pourquoi si vous n'avez pas de moyens? Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous avez un établissement public à caractère technique et scientifique comme l'ACE et comme l'ICCN à qui vous ne donnez pas de moyens? Pourquoi? Ça, c'est pour se taper la poitrine ou bien c'est important. Et si vous
j'imagine que M. Biaombe s'est démené avec les moyens de bord.
Non, c'est pourquoi je le félicite. Il a commis de petites erreurs, c'est normal, parce que Biaombe n'est pas vétérinaire. Ok? Mais si Biaombe avait ces documents-là, j'insiste, une étude d'impact environnemental et social assortie de son plan de gestion environnementale et sociale, un gestionnaire comme Biaombe devrait simplement ouvrir ses plans de gestion environnementale et voir s'il y a échouage, voilà ce qu'on fait.
Monsieur Biaombe, à vous la parole.
Oui, merci beaucoup. Il est vrai, toutes ces études que le directeur venait de dire sont vraies. Il est dommage que ça n'existe pas au niveau de les protéger et tout ça, ça devait se faire lors de la création des études, de la création ou de la mise en place de cette aire protégée. On devait déjà réfléchir à tout ça avant de signer des documents pour les réactions de cette aire protégée. Malheureusement, ça n'existe pas. Et il est aussi vrai qu'on n'est pas, on n'est pas vétérinaire, mais on a essayé de faire ce qui était possible. Je suis d'accord avec l'étude d'impact environnemental et social. Et ce n'est pas cette étude normalement qui devrait nous aider pour savoir où est-ce qu'on pouvait mettre à terre l'espèce, mais au moins on a essayé aussi de sensibiliser la communauté, de leur montrer ce qu'ils pouvaient faire pour que les conséquences ne soient pas trop néfastes. Il y a eu ces problèmes aussi de communication. Je suis très d'accord avec le directeur quand il parle de cette communication. Mais les questions sur où est-ce qu'on devait mettre les corps, je suis aussi d'accord avec Claudia que une histoire de plus de 12 mètres, dans quelle chambre froide on devait mettre, puis l'idée c'était même de laisser ça pourrir quelque part on devait mettre. Des scientifiques, des experts nous ont montré que l'odeur pouvait aller même à 4 kilomètres et ça pouvait désaffecter tout le... C'est vraiment un problème de contamination maintenant vrai qu'on devait créer. Et c'est pourquoi nous avons pensé que cette décomposition se faisait sous terre, ça fait aller rapidement avec les produits qu'on a mis pour qu'on récupère les squelettes sans problème et que les conséquences ne soient pas vraiment trop minimisées, même si on aura, comme venait de dire les termes de Maquis, mais c'est vétérinaire et qui espère, mais je pense qu'il n'y aura pas assez de conséquences par rapport à ce que nous avons eu à faire, même si il y aura cette propagation des microbes ou des maladies sous-terre.
Merci bien. Alors, monsieur, on va terminer par ici, monsieur Mbaïma. Quelle leçon on peut tirer de cet événement?
On peut simplement tirer une très grande leçon. D'abord, je voudrais fixer l'opinion ici. C'est que le directeur Biaombi vient de dire, il a raison, mais je n'entre pas en contradiction avec lui. Je le félicite. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Là, il faut... coup de chapeau, chapeau bas. Mais s'il y avait ces études-là, Biaombi, vous auriez eu toute la panoplie des mesures et vous n'alliez qu'appliquer. Oui. Pauvre vous, l'étude n'était pas là, mais vous vous êtes quand même démerdé. Coup de chapeau. Bon, mais maintenant, la leçon...
Quelle leçon on peut tirer aujourd'hui?
On tire la leçon suivante. Toutes les aires protégées doivent mener des études d'impact environnemental et social assorties des plans de gestion environnementale et sociale où on a tous les scénarios qui peuvent arriver. Et donc, à titre préventif, on a ces documents-là. Dès que ça arrive, vous ouvrez, vous appliquez. Et la loi 11, ce qui est une loi mère, les dit. La loi sur la conservation peut être considérée comme une mesure d'application de cette loi. Les dit autant, mais pourquoi on n'applique pas ça?
Merci beaucoup, M. Ngui Mbaïma, ancien directeur technique et scientifique à l'ICCN et directeur à l'Agence congolaise de l'environnement. Nous disons aussi merci à M. Dédieu Biaombi, directeur provincial de l'ICCN Congo Central. C'était un plaisir de vous recevoir pour échanger et à la prochaine.
Mon frère, merci beaucoup. Et je pense que on pourra chaque fois venir.